Bonjour Tiffaine et très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Si l'existence de Barbara a été difficile, on peut dire qu'au moins, elle a su la vivre pleinement. Enfant juive pendant la Seconde Guerre mondiale, abusée sexuellement par son père, elle fut presque à la rue durant son séjour très jeune à Bruxelles avant de construire petit à petit un succès qui fit d'elle une femme et une artiste véritablement adulée. Jean-François Kervéan a écrit cette vie dans une biographie parue chez Robert Laffont et il nous en a parlé au cours du premier épisode de notre série. Et puis mardi, c'est aux mots de Barbara que nous nous sommes intéressés en compagnie de Joël Julie qui les a étudiés de fond en comble et a même écrit une anthologie de ses chansons publiée chez l'Archipel. Enfin hier avec Valérie Lehoux, également autrice d'une biographie de Barbara, cette fois chez Fayard, nous sommes davantage revenus sur la diva Barbara, cette femme à la présence physique impressionnante sur scène malgré sa difficulté à aimer justement son propre physique. Et aujourd'hui ?
sont des voyants. Une petite fille qui est très proche de moi, qui m'a dit cette chose très étonnante l'autre jour, elle m'a dit « Quand tu chantes, tu vois tout. » Petite fille qui a 5 ans. Je lui dis « Mais qu'est-ce que je vois ?» Elle a dit « Tu vois la mer et le soleil. »
Aujourd'hui, dans la seconde partie de cette émission, après la chronique de Nathalie Frolov, nous rejoindrons à distance le dramaturge Pierre Note, auteur du livre « J'ai tué Barbara » aux éditions Philippe Ray, dans lequel il raconte notamment comment cette chanteuse lui a plutôt sauvé la vie. Mais pour débuter et parler des scènes de Barbara jusqu'au plus improbable, ainsi que de son rapport à la période de l'occupation, nous sommes avec vous, Bruno Blankmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, professeur de littérature contemporaine, auteur d'essais sur Modiano, Quignard, Eschnoz, Yourcenar, des auteurs qu'on considère généralement comme des très grands. Barbara doit-elle être considérée, j'imagine que vous pensez que oui, comme leur égale?
Alors, leur égale, oui, dans toutes leurs différences. Barbara est autrice de chansons. À partir du moment où l'on considère la chanson comme un art majeur et non pas comme un art mineur ou comme un art mineur mais mineur de fond, c'est Nougaro qui donnait cette très belle définition, effectivement, Barbara est son répertoire constitue aussi une œuvre en partie littéraire, en partie musicale, en partie dramatique.
Mais est-ce qu'on étudie, je ne sais pas, Yourcenar comme on étudie Barbara ?
Alors, on étudie ce qui constitue le corps de l'œuvre, c'est-à-dire des textes, si ce n'est que dans le cas de Yourcenar, les textes créent ou sécrètent leur propre musique, alors que dans le cas de Barbara, il y a la musique et il y a les textes, ainsi qu'une voix qui n'est pas que narrative, qui est une voix lyrique, ou plusieurs voix, selon la période de l'œuvre de Barbara que l'on considère.
Alors Barbara est entrée en Pléiade, un petit peu, hein, par la petite porte. Elle fait partie du second volume de l'anthologie de la poésie française. Intéressant de le noter quand même. Il y a aussi eu un colloque à l'université François Rabelais de Tours. C'était en 2017. Et vous faisiez partie de ce colloque, Bruno Blankmann. Il faut dire que vous êtes un véritable fan. Je crois qu'on peut utiliser ce mot-là pour vous caractériser dans votre rapport à Barbara.
Je ne l'emploierai pas véritablement.
On peut avoir de la distance même en étant fan.
Oui. Dans fan, il y a fanatique et Barbara appelait tout sauf le fanatisme. Il n'y avait pas d'ayatollah de la cause barbaresque.
Il y avait quand même beaucoup de gens qui l'aimaient passionnément.
Absolument, absolument. Alors, c'est pour ça, le terme de passion convient mieux, peut-être, que celui de fanatisme, même si parfois les deux se recoupent.
Vous l'avez vu, combien de fois vous le savez? Vous avez compté le nombre de fois où vous êtes allé en concert?
Non, d'une part peut-être parce que ça dépasserait mes moyens comptables.
Vous pouvez compter jusqu'à 250?
250 ah oui, quand à peu même. Près, oui, oui, oui. Ouais. Mais ça n'est ni un exploit, ni voilà, ça n'est pas cela qui comptait. C'était admettons que je l'ai vu 250 fois ou 300 fois sur scène, c'était à chaque fois un spectacle différent.
Pourquoi? Qu'est-ce qui était différent?
C'était quelqu'un, alors on ne peut pas dire qu'elle improvisait, mais sa voix n'était pas la même d'un soir à l'autre. Les chansons étaient les mêmes, mais leur interprétation variait. Et puis, la présence extrêmement sensible, extrêmement animale, au sens où Barbara, c'était un fauve sur scène. Hein, c'était une bête de scène, comme on le dit familièrement. Tout cela variait en fonction des humeurs, en fonction de ce qu'elle ressentait du public, en fonction des éclairages, en fonction lors des tournées de l'improbabilité même des salles qu'elle découvrait quelques heures auparavant et qu'elle avait besoin en quelque sorte de s'approprier en y passant toute la journée avant le spectacle, selon un rituel qui lui appartenait. Donc tout cela faisait qu'il y avait des variations très très fortes d'une représentation à l'autre.
Est-ce que parfois vous aviez l'impression qu'elle n'y arrivait pas, ou qu'elle y arrivait moins, ou qu'elle n'avait pas envie, ou que tout simplement elle ne pouvait pas, parce que c'est difficile d'être toujours, de se donner complètement sur scène à chaque représentation?
Elle y arrivait toujours, mais différemment. Et quand sa voix manifestait quelques états de faiblesse, elle compensait par le jeu. C'était une tragédienne, Barbara. Et elle jouait parfois, plus qu'elle n'interprétait au sens lyrique, ses chansons, lorsque la voix manifestait quelques états de faiblesse. Lors d'autres représentations, c'était le phénomène vocal qui était mise en relief. Mais généralement, il y avait les deux. Il y avait le lyrique et le dramatique. Ouais. C'est ce qui faisait véritablement le...
Comme une chanteuse d'opéra.
Différemment, parce que le texte, quand même, était très important. Les paroles de Barbara importaient fortement. Donc ça jouait sur un autre registre que l'opéra.
Alors il y avait Barbara à la scène sur les planches, mm-hmm. et ensuite il y avait une autre scène, c'était la scène dans la rue, parce que quand Barbara terminait un spectacle, elle partait du côté des coulisses, et là il y avait encore 30, 50, 100 personnes qui avaient assisté au spectacle et qui l'attendaient de nouveau. Et là il y avait peut-être un nouveau spectacle.
Oui, alors à partir de l'Olympia 1978, Barbara recevait de moins en moins dans sa loge, parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes, beaucoup trop de passionnés qui l'attendaient. Bon, parfois elle convoquait, entre guillemets, dans sa loge tel ou tel spectateur, quel ou spectatrice qu'elle connaissait pour prendre de ses nouvelles, pour discuter. Mais c'était surtout effectivement dans la rue, à la sortie des artistes, que de plus en plus de personnes, de spectateurs attendaient pour la voir, pour essayer de lui parler et voilà, pour lui dire au revoir, pour lui dire merci.
Est-ce que vous avez fait partie, on peut vous le demander, de ces spectateurs qui attendaient à la sortie?
Oui, bien sûr, parce que c'était très festif. Hein. Ça n'était pas le recueillement mortifère. Ça n'était pas non plus, si vous voulez, la pétrification du fan devant l'artiste. C'était joyeux, c'était festif, c'était la vie, et c'était surtout une volonté de manifester par la présence, par quelques mots envoyés, le bonheur, la joie de ce qu'elle avait donné.
Et probablement elle vous reconnaissait alors ?
Elle reconnaissait un certain nombre, effectivement, de spectateurs réguliers.
Ouais. Donc, elle a joué au Châtelet, elle a joué à Pantin, peut-être qu'on pourra en dire un mot, parce que vous avez assisté à ce concert absolument mythique, mais ça ne l'empêchait pas d'aller jouer dans des quartiers qui étaient des quartiers d'espaces commerciaux, par exemple, ou sur des scènes totalement improbables. Vous l'avez vu dans quel type d'endroit ?
Dans beaucoup d'endroits effectivement très 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 différents, depuis les arènes de Fréjus et des salles effectivement plus approximatives, entre autres je crois que c'était à Dunkerque dans un centre commercial qui avait nom Sportica, et où la scène de théâtre, la petite scène de théâtre, se trouvait au dernier étage, juste au-dessus d'une piscine. Et il y avait une part d'aléa, d'improbabilité. Et voilà, Barbara en faisait une arène, elle en faisait une scène, et elle, comment dirais-je, elle parvenait à dominer les aléas du lieu, justement parce que elle occupait les lieux, elle les investissait, c'était une présence scénique extraordinaire, Barbara.
Mmh. Mais les lieux, elle pouvait tous les transformer ou pas, parce que on le voit dans le film de Mathieu Amalric,
oui.
Comment, quand elle va à Châteauroux, bon, c'est une reconstitution, mais oui. Les lieux sont pour elle extrêmement importants, il ne faut pas qu'on touche au piano, il faut que la lumière soit comme ci et pas comme ça. L'esprit du lieu, en fait, l'énergie du lieu était extrêmement importante pour elle, et alors même à Gravelines ou au-dessus de la piscine, c'était possible de faire surgir, jaillir l'esprit du lieu.
Il y avait des lieux, je dirais, neutres, c'est-à-dire qu'elle découvrait et qui ne renvoyaient à rien de sa propre sensibilité, de sa propre expérience, et puis il y avait des lieux qui étaient investis d'une histoire, et Châteauroux, ça renvoyait pour elle à la guerre. C'était une des villes dans laquelle elle a fui avec une partie de sa famille, et forcément les lieux étaient investis par l'histoire. Mmh. Et c'est quelqu'un qui, Barbara, était aussi porteuse de cette histoire-là, de plusieurs histoires,
oui.
Collectives et autant qu'intimes.
On va en reparler, mais vous dites de sa voix qu'elle double le texte de ses chansons par le récit sous-jacent de sa propre histoire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand elle chante, elle raconte, par la voix, par la texture même de sa voix, sa propre histoire, Bruno Blankmann.
Oui, sa voix, on sait qu'elle elle variait considérablement d'un soir à l'autre, sa voix qu'elle dominait parfaitement parce qu'elle avait du métier, et puis parce que à partir des années 80 elle a entre guillemets rééduqué sa voix en raison de certaines faiblesses que celle-ci présentait, mais cette voix était une sorte de médium entre elle et le public, mais aussi entre elle et sa propre histoire. La voix de Barbara, les intonations, les pertes, au contraire, les envolées, les effets de surpuissance, tout ça faisait sens aussi à côté des paroles, à côté de la musique, dans l'interprétation et dans la dimension extrêmement dramatique, extrêmement théâtrale du spectacle.
Alors, il faut aller au piano, c'est difficile. Puis une fois que je suis assise, bon, alors là, c'est fini, le travail de dompteur, c'est à moi. Il n'y a pas de mauvais public, hein. Il y a quelquefois des gens, un public plus ou moins talentueux comme nous, mais alors là, si vous ratez, vous êtes responsable complètement.
Le piano, ça vous aide beaucoup.
Ça m'a beaucoup aidé.
C'est un bouclier.
Oui, ouais, c'est un bouclier. Maintenant, c'est une chose, c'est évidente pour moi. C'est pas.
Mais vous n'êtes pas toujours au piano maintenant. Souvent, vous vous levez quand
oui,
même.
Oui, je me lève beaucoup maintenant, mais je retournerai toujours. Je veux dire que je ne conçois pas une scène sans piano.
Oui. J'ai lu quelque part, on vous citait, on disait, la chanson, c'est comme une conversation. Ça doit se chanter assis ou ça doit se dire assis.
C'est ça.
Oui.
Je dis ça, c'est vrai, c'est une conversation. On peut la faire assis, couchée debout. Enfin, l'important, c'est de se converser.
Mais même une grande salle, c'est possible, la conversation.
Davantage. Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Pourquoi une petite salle? C'est beaucoup plus difficile d'être dans une petite salle que dans une grande. Plus vous êtes dans une grande salle, plus vous isolez, plus vous isolez, plus vous pouvez donner, plus vous repliez, plus vous pouvez donner. C'est évident. Et puis, vous ne chantez pas pour chanter dans une petite salle, vous allez vers un grand public. Encore une fois, on peut refaire un jardin partout, quoi. Moi, j'ai vu des salles qui avant d'entrer en scène, qui c'est souvent, enfin, qui font peur. Vous savez ce qu'on appelle, on dit les jeunes sont bruyants, etc. On entend effectivement des hurlements. Et puis une fois en scène, une espèce de silence religieux qui fait que on chante pour chacun est concerné. Et moi, je suis. Vous prenez, j'entends les gens très bien respirer, bouger. Je les vois, enfin je les vois pas parce que je vois pas clair, mais je veux dire je les vois, vous comprenez, et je sais que, oh non, c'est plus facile d'être dans une grande salle, c'est même pas comparable. Et puis je vous dire, il y a le goût aussi de la lutte, le goût du combat, c'est fascinant. C'est comme dans un travail de dompteur, c'est avec comme ça, avec tendresse, avec puis les gens qui veulent pas venir, il y a qui n'aiment pas. Ça se sent aussi très bien dans une salle, je peux pas dire qu'on peut les localiser, mais il y a qui n'aiment pas, ils ont, c'est leur droit, et puis qui tout à coup... Ça vient, mais c'est difficile d'expliquer la scène, moi je sais pas.
Quand je serai morte, enterrez-moi dans un piano noir, comme un corbeau, un do ré mi fa, seul la sino. Quand je serai morte, écrivez dessus comme il faut, et le feu serait bien.
La Compagnie des Œuvres sur France Culture. On entendait à l'instant Barbara dans un entretien avec Émile Noël du 24 août 1970. Et puis là derrière nous, c'est le piano noir, Bruno Blankmann. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu alors de ce fameux épisode de Pantin auquel vous avez assisté très jeune, comme vous alliez à quasiment tous les concerts de Barbara? On en parle tout le temps comme un moment d'apothéose, comme d'un moment très très spécial. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce qui a fait la différence entre ce concert-là et les autres?
C'est-à-dire qu'elle est devenue vraiment une très grande chanteuse populaire à Pantin. C'est-à-dire que c'en était fini. Provisoirement, elle y retournait, mais des salles plus petites ou des théâtres dûment constitués.
On est loin de l'Écluse, en effet.
Voilà, on est très loin de l'Écluse. Pantin appartenait à Jean Richard, qui était un homme de cirque aussi. C'était un lieu à la périphérie parisienne, dans une espèce de terrain vague. Et puis, c'était tout sauf une salle à l'italienne.
C'était pas le Châtelet non plus.
Ça n'était pas le Châtelet non plus. C'était très vaste, tout en longueur. Alors bien sûr, Barbara l'avait barbarisé, ce lieu. C'est-à-dire, il y avait des tentures rouges. Elle en avait fait un lieu à sa convenance. Mais la question aussi était de savoir, à l'époque, si elle allait le remplir, ce lieu. Pendant quasiment un mois.
Donc c'était presque aussi un plébiscite d'aller voir ce concert.
Voilà, c'était plein et c'était surtout toute une nouvelle génération à laquelle j'appartenais qui découvrait Barbara. Et qui manifestait peut-être de manière beaucoup plus démonstrative son amour, ses remerciements par des vivas qui n'en finissaient plus, et puis par une espèce de présence, de connivence qu'elle percevait même lorsqu'il y avait silence, lorsqu'elle chantait.
Donc la jeunesse, c'est très important pour Pantin, c'est que c'était en effet quelqu'un qui faisait de la chanson française, Barbara, comme on en avait fait traditionnellement en France. Je ne sais pas si on peut convoquer Piaf, etc., ce genre de chanteuse. Et tout d'un coup, des jeunes gens de 17 ans, 18 ans, 20 ans vont l'acclamer comme si c'était une rockstar, et comme si c'était Mick Jagger.
Mais oui, vous avez raison de parler de Piaf. On peut même remonter plus haut, Damia, Yvette Guilbert aussi. Il y a toute une tradition des diseuses qu'elle reprenait à son compte, mais bien sûr qu'elle actualisait et dont elle faisait imploser le modèle. Et surtout, si vous voulez, c'était une génération de spectateurs, de jeunes spectateurs, qui découvraient Barbara avec la voix qui était la sienne et la présence qui était devenue la sienne sur scène. C'était fascinant, Barbara sur scène. Hein, c'était vraiment un monstre sacré, comme on dit parfois. Elle occupait l'espace par une espèce de semi-danse, lorsqu'elle n'était pas au piano. Lorsqu'elle n'était pas au piano, il y avait un magnétisme qui faisait qu'on avait l'impression que c'était le piano qui bougeait tout seul. Et puis surtout, cette voix qui était un peu cassée, qui était rauque, elle savait en tirer des effets incroyables qui rentraient en harmonie et en complément avec sa gestuelle, avec ces espèces de passes déambulatoires par lesquelles elle occupait la scène. Et tout cela créait une sorte de relation fusionnelle, une sorte d'élévation collective qui mettait tout le monde dans une sorte de transe heureuse,
ouais. Hein,
de transe jouissive. Voilà, parce que on a souvent dit que les chansons de Barbara, son répertoire était triste, était bon. Il y avait une imitation de Le Luron à l'époque, hein, sur l'air de L'Aigle Noir. C'était oui, je viens vous foutre le cafard. On m'appelle l'Assommoir. Bon, pas du tout. Ça, c'était, si vous voulez, l'image d'Épinal.
C'était pas le seul d'ailleurs à se moquer d'elle un peu sur ce mode-là.
Il y avait, mais de manière beaucoup plus subtile, Claude Véga qui avait fait des imitations tout à fait succulentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un spectacle de Barbara et Pantin diffusait cela de manière très très forte, c'était une sorte d'enthousiasme collectif progressif. Depuis l'approche de certaines situations existentielles qui ne sont pas nécessairement les plus drôles.
Il y a quelque chose de déraisonnable un peu avec Barbara, elle-même revendiquée d'ailleurs, on l'a un petit peu dit,
oui,
dans l'émission d'hier.
Une chanson qui s'intitule La Déraison.
Ah ben on va l'écouter.
À te regarder vivre en plein soleil, à te regarder vivre, je m'émerveille. Et j'en oublie l'hiver et son corps sèche. Je ne vois plus tomber la neige. J'ai trouvé ce matin à mon réveil ce petit bout de givre sur mon sommeil. J'ai trouvé ce matin au creux de moi, comme un cristal, ce bout de froid. Et quand je l'ai posé sur ton épaule, on ne me croira pas, c'est vraiment drôle. Mais je l'ai vu se fondre tout pareil, comme du givre à ton soleil.
C'est une des chansons que vous aimez bien, ça, Bruno Blankmann,
oui,
avec ses sons des années 80, quoi.
Oui.
On n'associe pas forcément à Barbara, d'ailleurs.
Oui, il y a une très grande variété musicale, hein, dans son œuvre. Oui, c'est une chanson qu'elle n'a, à ma connaissance, jamais interprétée sur scène, mais qui est, un des aspects de Barbara, hein, la légèreté profonde.
Oui. La raison est venue, j'ai demandé qu'elle sorte, chante-t-elle dans
oui.
L'enfant laboureur. Alors, il y a évidemment la question du désir, l'espace de la nuit, l'espace dedans, la nuit sexuelle, toutes ces choses que vous évoquez dans vos articles, Bruno Blankmann, le côté un petit peu électrique, enfin c'est celui qu'on approche que difficilement finalement. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu de cette face de Barbara.
Oui, c'est-à-dire qu'elle conjugue l'amour sous toutes ses acceptions. Il y a, si vous voulez, des chansons qui relèvent, me semble-t-il, directement d'un héritage poétique très ancien qui est celui des précieuses. Hein, non pas les précieuses ridicules que Molière a pu caricaturer, mais ces
femmes...
Elle
n'est jamais ridicule selon vous, même si d'autres pensent que oui. Dans ses excès, justement.
On est sans doute toujours le ridicule de quelqu'un d'autre, mais moi je ne l'ai jamais trouvé ridicule.
Parce qu'elle est authentique finalement, et ça enlève tout ridicule peut-être.
Bah, parce qu'il n'y avait ça, c'était une création artistique. Barbara, sur scène aussi. Alors après, on peut penser que, voilà, si l'on préfère le minimalisme qu'elle a pu avoir à ses débuts, l'exhibition théâtrale qui était la sienne à partir de Pantin a peut-être pu gêner certains spectateurs, si ce n'est qu'elle maîtrisait les différents registres. Il y avait des moments où elle était à son piano, quand elle interprétait Pierre, par exemple, où c'est un modèle de poésie contenue. Quand elle chante Le Mans d'habit rouge, ou même Marianne Bade, il y a des manifestations extrêmement puissantes du désir. Qui passe par les gestes, qui passe par les pas de danse, autant que par la voix et par le verbe même qui est le sien.
Oui. Alors j'ai dit en introduction à cette émission qu'on allait parler un tout petit peu du rapport avec la période de l'occupation. Faisons-le sans transition parce que malheureusement l'heure tourne. Bruno Blankmann, vous êtes un spécialiste, je l'ai dit également, de Modiano, et vous arrivez finalement à voir des liens entre cet écrivain et Barbara. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, j'ai même commis un article où j'essaye de faire une lecture croisée des deux. Il y a effectivement ce rapprochement par rapport à l'occupation, si ce n'est qu'ils ne l'ont pas vécu du tout du même côté de la barrière.
Oui, Barbara, et Modiano, elle, de toute façon, est né après-guerre.
Il est né en 45. Mais justement, il est né en 45, ça n'est pas une date anonyme, ça n'est pas une année anonyme. Hein, il est l'enfant de la guerre. Enfin, il construit toute une part de sa mythologie romanesque sur cette idée-là. Hein, sur l'idée qu'il est le pur produit de la ruine et de la collaboration. Barbara, c'est différent. Elle est l'enfant de la fuite. Elle est l'enfant des cachettes successives en tant qu'issue d'une famille juive. Elle est l'enfant persécuté. Et de cela, elle en parle, mais à mi-mot, à mi-voix, de manière discrète, parce qu'il n'y a pas de mots à mettre. C'est une écriture blanche, c'est une parole blanche. On ne peut pas écrire explicitement ce qui s'est joué dans l'esprit et dans le corps d'une enfant persécutée pour une raison dont elle ne comprend pas le sens. Qu'est-ce que ça veut dire être juif quand vous avez 7-8 ans? Écoutez,
Elle aurait pu parler de cette incompréhension, par exemple, justement, de pourquoi finalement devoir fuir comme ça.
Ça n'était pas son propos. Elle n'était pas historienne, elle n'était pas essayiste. Elle est partie de ce que certains psychanalystes appellent la crypte, c'est-à-dire ce que l'on porte en soi sans le savoir vraiment et sans y mettre des mots véritables, si ce n'est que tout. Un certain nombre de ses chansons renvoient implicitement à cela. Alors, le parallèle avec Modiano se justifie aussi de cette façon-là, parce que lui essaie d'inventer une écriture romanesque qui parle d'un temps qu'il n'a pas connu, qui est celui de l'occupation, qui est celui, effectivement, des persécutions antisémites. Il ne les a pas connues ouvertement, mais il en a hérité de manière extrêmement forte, puissante et violente. Et finalement, toute son œuvre parle de cela. C'est autour, si vous voulez, de ces questions, et puis surtout dans ce minimalisme de l'écriture. J'entends par là dans une écriture qui ne cherche pas à tout dire, à tout montrer et démontrer, à tout expliciter, mais qui parie sur la puissance du moindre mot, qui parie sur des effets de musique. Modiano est un musicien, Barbara aussi. Et ce sont les notes qui supplient les mots lorsque ceux-ci ne peuvent pas nommer un trauma.
Vous dites que c'est l'anti-Duras, Barbara. Pierre Note nous dira sans doute le contraire juste
non,
après
je
la chronique
n'ai pas
de Nathalie
souvenir,
Ferron.
D'avoir dit ça, il y a beaucoup, il y a quand même. Vous connaissez cette parole magnifique de Duras lorsque Barbara et Depardieu ont joué ensemble Lili Passion. Duras est venu assister à une représentation et à l'issue de la représentation, elle a dit à la presse en parlant de Barbara. Il n'y a que deux femmes qui existent, elle et moi.
Oui, mais on en reparlera justement avec Pierre Note en deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup Bruno Blankmann. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 3 et que l'un de vos thèmes de recherche, c'est la chanson d'expression française depuis les années 50. Sur Barbara, on vous doit notamment deux articles, Les scènes de Barbara et écoutez, l'autre je ne l'ai pas, mais en tout cas tout cela est à paraître dans les actes du colloque qui s'était tenu à Tours en 2017. Un mot ?
Un tout dernier mot pour saluer Juliette Gréco aussi.
Eh oui, évidemment. Tout de suite, on trouve la chronique du jeudi.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique du jeudi proposée aujourd'hui par Nathalie Frolov, professeure professeur en classe préparatoire au lycée. Tout m'échappe aujourd'hui.
Louis le Grand.
Louis le Grand à Paris. Comment oublier Louis le Grand ? Nathalie, vous venez nous parler de Barbara et le cinéma.
Oui, alors Joël Julie vous expliquait justement mardi, en fait à ce même micro, la particularité des chansons de Barbara par rapport en l'occurrence à Brassens, Brel ou Ferré. Et il expliquait qu'au-delà des thèmes abordés, parmi lesquels domine l'amour, ce qui retient l'attention, c'est le refus du mode narratif, exactement en fait ce que vient aussi de nous expliquer Bruno Blankmann. Alors certes, Nantes, ou plus encore Drouot, nous raconte une histoire. Mais il est vrai que les chansons de Barbara évitent l'explication au profit de l'évocation. Ces chansons préfèrent, par l'ellipse, nous ouvrir au monde brut des sensations et au présent toujours concret des sentiments. Jérôme Garcin le soulignait dans le livre qu'il a consacré à Barbara, je le cite, « Les chansons semblent répondre à ce que nous vivons d'inédit à l'instant précis où on les écoute. Cet accès immédiat aux sensations fait écho à notre expérience de la vie. » Et Stéphane Audguy le disait aussi, en fait, dans un numéro de la NRF qu'il avait dirigé avec Philippe Forest en 2012, « La chanson... c'est à la fois notre lot commun et l'expérience la plus singulière. Et c'est vrai que quand nous écoutons, on dit « quand reviendras-tu »,« je ne sais pas dire », »,« la solitude » ou bien « du bout des lèvres », l'évidence en quelque sorte nous saisit. Parler de Barbara, en effet, c'est aussi parler un petit peu de soi. Et on regarde ainsi surgir cet écho si fort qui résonne en nous. Il me semble que justement Mathieu Amalric, dans son film Barbara, parvient magistralement à raviver ses sensations premières, puisqu'exactement à l'image des chansons de Barbara, le film refuse également ce mode narratif, il refuse le déroulement explicatif et figé de sa vie.
Alors en quoi, en effet, le film vous semble-t-il intéressant ?
C'est quand même un objet étrange, ce film. Il est très complexe, il y a un dispositif complexe. Vous avez cette actrice, dont on ne sait quasiment rien, c'est pas du tout La Nuit américaine de Truffaut. Cette actrice vient interpréter Barbara dans un film réalisé par un amoureux fou de ses chansons. On se demande aussi s'il n'est pas amoureux fou d'elle. Ce film, dans le film, permet bien sûr de rendre compte de cette tentation toujours constante de la révérence ou de la géographie devant Barbara. Mais ce qui vient encore complexifier cette structure et ajouter ce que j'appellerais un troisième niveau d'interprétation, c'est l'incarnation bien sûr des personnages par Jeanne Balibar et Mathieu Amalric. Jeanne Balibar, c'est donc cette actrice très diva qui interprète Barbara. Et seul parfois le grain des images permet de distinguer les archives de la vraie Barbara de celles du film qui est lui-même mis en abîme. Mais cette tension entre le réel et la fiction connaît encore un autre niveau de lecture parce que nous voyons en cette actrice qui s'appelle Brigitte dans le film,
nous voyons quand même Jeanne Balibar elle-même, mmh. qui en quelque sorte abolit la distance avec Barbara. Elle devient Barbara, elle joue de la ressemblance bien sûr, mais le lecteur ne peut s'empêcher de voir aussi en parallèle comme Cosa Montale, celle qui jouait une Elvire hiératique dans le Don Juan de la Salle ou une Duchesse de Langeais séductrice et secrète chez Rivette. Je ne parle même pas de toutes ces chansons que Jeanne Balibar a chantées aussi, conjuguant le mode majeur et mineur dans le Tour du Monde. De même, Mathieu Amalric conserve aussi l'épaisseur de ses rôles et je trouve qu'il retrouve ici un petit peu de la mélancolique de son premier rôle extraordinaire, Paul Dédalus, dans Comment je me suis disputée. Ce couple qu'à une autre époque, on aurait appelé à l'écran ou à la ville, recompose en fait le mythe de Barbara et de son public, si fervent, qui ne voulait jamais quitter la salle à la fin du concert. Donc on a un vrai jeu de miroir, mais qui va devenir encore plus étonnant et plus manifeste par la présence discrète mais saisissante de Pierre Michon dans le rôle de Jacques Tournier. Et cette apparition à l'écran, c'est une magnifique surprise pour les Happy Few. Michon, l'écrivain, joue un autre écrivain qui a écrit donc sur Barbara. Vous avez un texte de Christophe Prado très intéressant qu'il avait prononcé en 2007 à Pompidou et qui est reproduit sur le site des éditions Verdier. Il montre justement que cette présence de Michon nous dit aussi quelque chose en fait. L'illumination du suspens et l'invention d'un haut langage. Je le cite, cette façon qui est la sienne de dire le plus prosaïque, le plus quotidien, le plus ordinaire, ce qu'il appelle le minuscule dans la langue la plus tenue. Et en ce sens, Christophe Prado, il parle aussi de Barbara. Mais il parle aussi en fait de lui, très modestement de son écriture, celle de ses romans, comme L'hypnotique souterraine ou Les 24 portes du jour et de la nuit. Donc on a ici une sorte de kaléidoscope, un cinéma que je pourrais appeler fragmenté et poétique, qui est sans doute le mieux à même de témoigner de la grandeur de Barbara. Parce que Barbara, c'est quand même des chansons qui nous étreignent, qui nous consolent. C'est une sorte, je trouve, de mélancolie désinvolte qui s'exprime dans ces chansons. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à La fiancée du pirate, incarnée par Bernadette Lafont dans le film de Nelly Kaplan, où on entend cette chanson, on entend cette liberté du présent à vivre dans « Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents, sans réticence ».
Ben oui, ça c'est aussi un film qu'on a envie de revoir. Merci beaucoup Nathalie Frolov pour votre analyse donc du film de Mathieu Amalric, Barbara. Je rappelle que vous êtes donc professeur en classe préparatoire au lycée Louis le Grand à Paris. À bientôt. Chagne qui chante Vienne de Barbara, c'est bien la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Dernier jour d'une série consacrée à cette femme qui chante comme elle se définissait elle-même et que nous terminons en compagnie du dramaturge Pierre Note, auteur également du roman J'ai tué Barbara aux éditions Philippe Ray. Pierre Note, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là à distance depuis le sud de la France. On entend donc chanter votre complice Police Chagne, c'est assez incroyable. À quel point on pourrait presque croire que c'est Barbara elle-même qui chante, non ?
Oui, Pauline Chagne, il y a une confusion extraordinaire entre l'individu, cette jeune femme aux cheveux noirs qui ressemble très étrangement à Barbara dans les années 50 et sa voix, elle a une voix extraordinaire qui rappelle évidemment celle de Barbara. Elle peut jouer aussi d'autres choses, mais là elle va jouer un texte intitulé « Moi aussi je suis Barbara » où on voit une jeune femme se transformer en Barbara au fil de la pièce. Elle va se jouer au Lucernaire au mois de janvier dans une mise en scène de Jean-Charles Mouveau. C'est une jeune comédienne et chanteuse fantastique. Oui, absolument.
Alors, vous pouvez peut-être nous dire un mot justement sur cette pièce qui n'est pas une pièce vraiment sur Barbara elle-même, mais enfin, il y a l'ombre de Barbara qui plane sur elle.
L'ombre de Barbara, elle est toujours là d'une manière ou d'une autre. Là, c'est un projet de Pauline Chagne elle-même, qui est comédienne et chanteuse, et qui à un moment donné a souhaité que je réécrive. Moi aussi, je suis Catherine Deneuve, qui est une pièce qui a vu le jour en 2005, autour de Barbara, parce que il y a chez Pauline Chagne une sorte de confusion terrible entre elle et Barbara. C'est une sorte de fardeau, une sorte de malédiction qu'elle subit et qu'elle a voulu conjurer en interprétant elle-même Barbara sur scène, en mêlant des scènes de la vie quotidienne, des scènes assez âpres, assez dures d'une vie quotidienne des années 70, avec le personnage de Barbara lui-même, elle qui deviendrait ce personnage qu'est Barbara, c'est-à-dire tout ce qui a été dit jusque-là, je souscris totalement et tendrement et tragiquement à tout ce qui a été dit, puisque Barbara c'est en effet un monstre de scène et c'est aussi une forme de liberté extrême, une extraordinaire incarnation et de la liberté et du désir, de l'amour qu'on attend, un désir de vie qui pousse irrémédiablement et inéluctablement vers la mort, et le désir de mort aussi, une sorte de passion de vie. Et ce personnage de Pauline Chagne dans Moi aussi je suis Barbara est un personnage éteint par la famille, éteint par la société, éteint par tout ce qui l'entoure, et qui tout d'un coup va surgir, porté par les voiles, les parures, les costumes, les manteaux de fourrure, le rocking chair de Barbara, et qui par là, par sa voix et par ce qu'elle irradie de force et de violence, va commencer enfin à vivre. Et il y a ça chez Barbara, c'est un souffle de vie exceptionnel qu'on ressent dès qu'elle chante, dès qu'on la voit sur scène. On est traversé par cette électricité vitale, cette nécessité impérieuse et absolue d'être en vie, et de vivre et d'aimer et de mourir.
Donc Barbara, c'est un personnage de fiction. Est-ce qu'elle représente un idéal type de personnage selon vous ?
Elle représente cette liberté folle, cette liberté, cette volonté, cette liberté, cette guerre pour la vie. Juliette Gréco disait déshabillez-moi, et Barbara c'est tout le contraire. C'est déshabillez-vous.
Ah, c'est, elle disait pas rhabillez-moi quand même.
Non, vraiment pas. C'est, vous savez, Juliette Gréco trouvait Barbara un peu trop théâtrale. Ça m'a toujours exaspéré, ça, de la part de Juliette Gréco. Et Barbara, c'est une sorte de théâtralité de la passion. Moi, je découvre avec Lily Passion un monstre de comédienne.
Donc la comédie musicale de Barbara, qui est finalement son dernier grand œuvre.
Oui, ensuite il y a eu un certain nombre de concerts, il y a eu plusieurs albums ensuite après Lily Passion. Mais c'est ça, c'est une comédie musicale qui a été reçue d'ailleurs d'une manière assez mitigée, mais elle apparaît avec tout ce qu'elle est de il y a aussi son humour qui est extraordinaire. Elle roule le public dans la farine à plusieurs moments du spectacle, elle joue avec son image, elle joue avec ce qu'elle incarne, elle joue avec ce qu'elle a de tragique. Elle joue avec ce qu'elle a de cette solitude qu'elle brûle au contact de la solitude de David, l'homme à la moto qui est l'assassin. Elle recherche l'assassin. Elle parle aussi beaucoup de la prostitution. Elle annonce là dans Lily Passion que si elle n'avait pas été chanteuse, elle aurait été prostituée. Elle avait écrit le spectacle Madame longtemps avant, où il est question là d'une tenancière de bordel. La prostitution est aussi une chose très importante dans l'œuvre de Barbara, c'est-à-dire à la fois le don de soi, à la fois la prostitution du métier de comédienne, de comédien, de chanteur ou de chanteuse, tout ça à la fois, c'est-à-dire les mensonges, la trahison, le rideau rouge, l'île qu'est le théâtre, mes théâtres, mes bateaux, tout ça, c'est tout un monde tout d'un coup qui s'ouvre. Et pour moi, c'était le monde du théâtre, l'écriture, une force du dialogue assez extraordinaire, un humour, quelque chose d'extrêmement insolent, audacieux dans tout ce qui était écrit là. Et puis la musique, le musical, la chanson, les lumières de musical, la séduction de la putasserie de la scène.
Et tout ça, vous le découvrez extrêmement jeune, puisque quand vous allez voir Lily Passion, vous avez 16 ans, Pierre Note. Donc c'est aussi une initiation peut-être pour vous, Barbara, et d'aller à son concert.
Ah oui, c'est une initiation mémorable, puisque je découvre là, par là, le monde du théâtre. Et la même année, je découvre aussi Électre de Sophocle, mise en scène par Antoine Vitesse avec Evelyne Istria. Et je découvre deux endroits du théâtre opposés, le musical d'un côté, d'une certaine manière le cirque, d'une certaine manière l'exhibition obscène des sentiments passionnés et de l'autre côté la tragédie antique avec la même exhibition obscène des sentiments et de la passion et de la violence et de la recherche de la vérité. En fait, il y a toujours aussi la recherche de l'amour, l'amour absolu, la recherche de la justice, la recherche de la vérité, sa vérité, et c'est ce qu'on trouve à la fois chez Barbara, à la fois dans la tragédie antique, et il y a cette puissance du corps, cette puissance de la voix, cette flamme, cette brûlure qu'on trouve chez Barbara à chacun de ses concerts, évidemment. Il y a une sorte de flamme de la présence, une sorte de, elle révèle de la présence à chaque instant, même si cette présence, elle va aussi vers des désirs de mort. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit de la mélancolie qui émane de ce personnage brûlant. C'est toujours la passion de vivre, la passion d'aimer, la passion d'être aimé, la passion de mourir.
Le public m'a accouché. Complètement. Le public m'a rendu ma douceur, m'a fait accepter mon physique. Il m'a porté avec une telle ferveur, avec un tel amour. Que jamais je ne tricherai. Je ne peux pas, je ne pourrai pas tricher. Les hommes aussi m'ont accouché. Ils m'ont appris des choses, beaucoup de choses. Moi aussi, je leur ai appris des choses. Je crois. On dit, expliquez-moi quand vous êtes en scène. Je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas moi. Peut-être que si on me plantait un couteau dans le dos, je ne le sentirais pas. Puis devant moi, il y a cette bête d'amour qu'est le public.
Archive de 1969. Alors Pierre Note, vous écrivez donc des pièces de théâtre, mais aussi des romans. Votre premier roman s'appelait La chanson de Madame Rosenfeld. Vous l'avez publié chez Maurice Nadeau en 1993 et vous l'avez repris en 2018 aux éditions Philippe Ray dans un volume qui rassemble donc deux romans, J'ai tué Barbara et aussi donc La chanson de Madame Rosenfeld. C'est assez logique d'ailleurs, vous parlez de ce premier roman dans l'autre roman, parce que ce premier roman, c'est le personnage finalement de Madame Rosenfeld qui est en fait Barbara. C'est un portrait d'elle que vous faisiez déjà et vous le faisiez en 1993.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le personnage de Barbara, c'est le personnage d'une comédienne, d'une chanteuse. Alors c'est Barbara
qui lui ressemble
certainement, qui lui ressemble beaucoup, mais c'est surtout le portrait d'une femme qui perd sa voix et qui s'isole au moment où sa voix commence à lui faire défaut. Et j'adresse ce premier roman à Barbara. Moi, je n'étais pas parmi les gens j'étais incapable de me rapprocher d'elle d'une manière ou d'une autre à la sortie des concerts. Je pense qu'on a aussi besoin pour certains d'entre nous, certains d'entre nous, des passionnés de Barbara, d'une relation très intime, très personnelle, très égoïste avec
on ne partage pas elle, Barbara.
Non, je pense qu'on ne peut pas partager Barbara, ni avec Mathieu Amalric, ni avec Jeanne Balibar, ni avec Gérard Depardieu. On ne partage pas Barbara, je crois pas. Je crois qu'on a besoin d'une relation très personnelle avec elle.
Vous êtes jaloux de tous ces hommes qui vous ont pris votre Barbara?
Jaloux? Non, moi je les ignore. je ne veux pas le savoir. Je ne veux rien savoir. Je crois qu'il n'y avait qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'elle et nous. Quand on était là avec elle en concert, il y avait une relation qui s'établissait. Elle avait ce génie-là à la fois d'embrasser et d'embraser la salle entière et à la fois d'établir une relation intime avec chacun d'entre nous. Et ce roman, La chanson de Madame Rosenfeld, je l'adresse donc à Barbara, où elle se trouve à Précy-Jardin, je crois, et c'était une femme extrêmement généreuse, extrêmement à l'écoute. Elle instaurait ça. C'est-à-dire quand Nicole Croisy chante « Dis quand reviendras-tu », Barbara lui adresse un bouquet de roses, elle lui adresse une boîte de chocolat. Elle est extrêmement généreuse. Et quand des gens lui écrivaient ou tentaient de la joindre, elle répondait, je crois, toujours, d'après ce que j'ai compris, elle répondait toujours à tous ceux qui la sollicitaient. Et Et quand elle reçoit le livre, elle me téléphone, elle m'appelle au moment où je suis dans un grand désarroi. Et j'avoue que trouver la voix de Barbara sur mon répondeur, à qui j'ai voulu dire ne lisez pas ce livre, il s'agit d'une femme qui perd sa voix et ce n'est pas vous, parce que je ne m'étais pas rendu compte que le récit pouvait être d'une grande violence s'il s'inspirait de Barbara. Je crois que la voix de Barbara sur mon répondeur, entendre cette relation possible de Barbara, ce geste, ce signe, ça m'a en effet sorti d'un espèce de troubillon de mélancolie complaisante où je me trouvais.
Parce que pour être un tout petit peu plus explicite, je pense qu'on peut l'être, étant donné que vous le racontez dans J'ai tué Barbara, votre personnage, bon, qui vous ressemble, votre narrateur, est en train tout simplement de se donner la mort au moment où il reçoit cet appel, ce coup de téléphone sur un répondeur, comme ça se faisait à l'époque sur une machine à cassette. Et là, c'est Barbara, et donc votre narrateur appelle les pompiers. Et donc est sauvé.
Je n'ai aucun problème avec l'impudeur. Là pour le coup, tant pis. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il tente d'en finir. Mais je pense que tuer Barbara, c'est aussi peut-être en finir avec ce qui fait que des adolescents, où j'avais 16 ans, 17 ans, 19 ans à ce moment-là, je pense que Barbara, elle poussait aussi à ses extrémités. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans son chant, certaines de ses chansons, dans sa grande liberté d'aborder les questions de la mort. La question du suicide est très très présente dans les chansons de Barbara. Il y a à mourir pour mourir, évidemment, mais il y en a d'autres. Il y avait quelque chose qui pouvait nous pousser vers des endroits d'une grande obscurité. Et il fallait en finir aussi avec ça, pour moi. En finir avec...
À mourir, pour mourir, j'ai choisi l'âge tendre. Et partir, pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle. Qu'on ne me voit jamais. Fanée sous ma dentelle, et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, allez donc vous faire l'air. J'ai vu l'or et la pluie sur les jardins d'automne, les forêts alanguies, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne.
Alors, il y a votre mère, ou en tout cas la mère de votre narrateur, qui en a un petit peu assez vous écoutiez tout le temps cette chanson. Quand on est un adolescent, quand on a la mère d'un adolescent qui écoute ça 10 fois par jour, on peut s'inquiéter, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Mais Barbara, c'est tout un univers, c'est tout un monde qui s'ouvrait tout d'un coup à moi quand j'avais cet âge-là. Et cet univers-là, aujourd'hui, moi, je ne peux plus l'affronter, je ne peux plus le regarder en face, je ne veux plus y aller. Mais il y a en effet tout un monde de passion, aussi de noirceur, aussi de tragédie. Ma mère qui m'a fait découvrir aussi Barbara et Brassens et Brel, qui s'ouvrait à des univers extrêmement variés, extrêmement différents, me voyait m'enfermer dans un seul univers, et c'était celui de Barbara, celui du rouge, celui du noir, celui du désir de mort, celui de l'élan suicidaire aussi. Mais après, peu à peu, j'ai appris à comprendre aussi l'humour de Barbara, cette soif d'amour, cette vivacité, cette force, cette puissance de vie qui émane toujours d'elle dans chacune de ses chansons et dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses mots, sa parole, son débit, cette urgence à vivre. Elle est fascinante, passionnante chez Barbara.
Mais qu'est-ce que vous ne pouvez plus finalement aller chercher chez Barbara? Qu'est-ce que vous refusez maintenant de Barbara?
Non, je refuse rien chez Barbara. J'aime tout chez Barbara. Quand on l'entendait tout à l'heure parler, je l'aime aussi quand elle fait un peu sa pute. Il y a quelque chose de ça chez Barbara. Une sorte de théâtralisation de tout. C'est tout à fait délicieux, et c'est assumer les prostituées que nous sommes quand nous sommes en scène, quand nous sommes sur un plateau, quand nous jouons comédiens, chanteurs, quand on compose cette putasserie du geste artistique vers les autres pour être aimé, pour être considéré, pour être regardé, pour être vu, cette déambulation sur le plateau, ce geste, ce que fait Pauline Shine dans Moi aussi je suis Barbara. Il y a tout ça, il y a la putasserie merveilleuse, incandescente du geste artistique. Ça, c'est ce que, avec son humour, avec sa distance, avec son insolence et son audace, c'est ça aujourd'hui que j'aime le plus, et que j'aime le plus chez Barbara. J'aime aujourd'hui rire avec elle.
Je ne sais pas avec quoi on écrit. Moi, je suis constamment dans la jalousie de ce que j'écris, moi. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Je suis jalouse de mes livres.
Ah oui.
Ouais. Je suis restée ici, vous voyez, cet appartement fermé, là. 3 mois. Et j'étais jalouse de celle qui était là, sur la plage, la nuit, qui voyait cet enfant, cette jeune fille, les collines d'argile.
Les roches noires,
oui. J'étais jalouse d'elle, indignée même. J'ai pleuré beaucoup, je ne voulais plus écrire du tout.
Oui.
Il n'y avait plus moyen de reculer du tout. C'est ça aussi, je ne peux plus reculer.
The springtime disappeared a long time ago now. The leaves are falling with small curves around. To see Paris divine on a late autumn day. But then I must lay down, I swoon and I sway.
Marguerite Duras, jalouse de ses livres dans une émission avec Jean-Pierre Sauton en 1980. Vous, Pierre Note, vous aviez envoyé votre roman aussi à Marguerite Duras qui ne vous a pas répondu, je crois. Il faut dire que La chanson de Madame Rosenfeld, c'est un roman qui fait beaucoup penser à Duras, et d'ailleurs il y a quelque chose de commun finalement entre Duras et Barbara.
Oui, il y a plusieurs choses entre elles deux. D'abord, personne n'a écrit sur l'amour comme Marguerite Duras, personne n'a écrit autour de l'amour et chanté l'amour comme Barbara. Elles ont toutes les deux une langue, un style, une manière de dire, de refaire le monde, de réécrire les histoires et d'inventer des formes. Évidemment, elles sont de grandes génies de la création, de la littérature, de la musique. Barbara, en apprenant seule au piano, elle compose elle-même ce qu'elle entend. Elle va vers sa propre vérité sans influence, avec évidemment des influences partout. Et quand on écrit, quand on a quitté l'école et quand on découvre Marguerite Duras, quand on découvre Barbara, on apprend, on est sous l'influence de la langue de Barbara, de ses univers, de ses mondes, et sous l'influence de Marguerite Duras, de sa langue, de son style, de sa manière d'écrire. Donc moi j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup plagié Marguerite Duras, à qui j'avais envoyé des chansons que j'écrivais. Je savais qu'elle écoutait beaucoup de chansons idiotes. Je lui avais envoyé des valses lentes, mais elle m'a répondu par ailleurs sur un autre texte que je lui avais adressé. Mais quand on l'entend là, on entend aussi chez Barbara comme chez Marguerite Duras des grandes formidables putes de l'histoire de l'art et du spectacle vivant. Il y a quelque chose comme ça d'une formidable provocation, d'une formidable séduction, d'un formidable égocentrisme, mais qui s'offre d'une manière exceptionnelle, extraordinairement généreuse aux autres, et ça c'est bouleversant de les entendre toujours. Et puis elles sont drôles, elles sont infiniment drôles.
Pour terminer, Pierre Note, il nous reste très peu de temps. J'ai tué Barbara, c'est peut-être aussi votre narrateur qui envoie des cadeaux un petit peu bizarres, des petits colis, des boîtes de conserve de ravioli à Barbara, et on sait que elle est peut-être morte de ça, d'une boîte de ravioli congelée, décongelée, recongelée, redécongelée.
Oui, elle faisait n'importe quoi avec la nourriture et je me reconnais assez bien en elle. Elle mangeait du zan noir.
Faites attention quand même.
Des boîtes de conserve. Oui, j'ai décidé de faire un peu attention. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Le zan, c'est quoi?
Le zan noir, vous savez, elle adorait ça. Parmi les touches d'humour extraordinaires qu'on trouve dans Lili Passion, à un moment donné, dans un moment très grave, tragique, très noir, où le personnage de Gérard Depardieu lui demande ce qu'elle a dans son sac, elle répond du zan noir. C'est du réglisse, elle mangeait du réglisse. Et c'était des moments totalement inattendus, astucieux et extrêmement... on pourrait oser dire des gags dans un espace de tragédie noire. Il y avait toujours un moment où où l'humour permettait de survivre à tout dans l'univers de Barbara.
Merci beaucoup Pierre Hanotte. Pas trop deux ans pour vous non plus. Votre roman J'ai tué Barbara est disponible aux éditions Philippe Ray. Et puis le spectacle Moi aussi je suis Barbara va être donc repris en janvier 2021 au Lucernaire à Paris. C'est la fin de la Compagnie des œuvres, une émission qui vous était proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Romain Billet, Laurence Genepin et Élise Leu. Et puis la semaine prochaine, nous nous promènerons dans la forêt divine de Dante Alighieri. À lundi donc, et c'est maintenant l'heure des sciences sur France Culture.